Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Dans cette édition de Santé pour tous, nous parlerons de la mortalité maternelle et infantile dans la région de l'extrême nord. En posture d'invités pour en parler, nous recevrons le docteur Menang Augustin, chef du district de santé de Maroua 1er. Grâce à son expertise sur la question, nous allons analyser les causes, les conséquences et les pistes de solutions pour réduire considérablement ces deux mortalités dans notre région. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Installez-vous confortablement, Santé pour tous, ça démarre dans une fraction de seconde. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous sur les ondes de Radio Serré Volcan FM. Le Cameroun est l'un des pays où les indicateurs de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant demeurent préoccupants, en dépit des engagements pris et des actions menées. En effet, le Cameroun a souscrit à plusieurs engagements internationaux qui l'ont conduit à adopter une stratégie nationale multisectorielle de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Cette stratégie a pour vision de faire du Cameroun une nation où l'accès universel aux soins et services de qualité pour les femmes et les enfants est une réalité, où les décès maternels, néonatales et infantiles évitables sont éliminés. La traduction de cette vision dans les faits se heurte à plusieurs présenteurs, particulièrement ici dans notre région. Plusieurs facteurs entravent l'atteinte des résultats escomptés en matière de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Sous-scolarisation, mariage et grossesse précoce, accès limité aux formations sanitaires, accouchement à domicile, insuffisance de l'offre en service de soins. En conséquence, des femmes continuent de mourir en donnant la vie, des nouveau-nés et des enfants meurent au cours de leur premier mois d'existence. Comment comprendre la justification et les causes de la mortalité maternelle et infantile à l'extrême nord? Quels sont les mécanismes déployés par les pouvoirs publics pour endiguer ce phénomène? Quelle doit être la part de contribution de la population pour permettre d'atteindre les objectifs nationaux fixés pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile? Éléments de réponse à l'entretien à suivre avec notre invité. Mais avant de l'accueillir, je vous propose d'écouter cet élément dans lequel nous avons testé les connaissances de certains auditeurs sur la mortalité maternelle et infantile.
La mortalité maternelle, c'est une mortalité qui s'observe chez les femmes enceintes ou après l'accouchement ou avant l'accouchement, puisque cela est dû au fait de la souffrance qu'elle endure durant la grossesse ou après l'accouchement. En fait, après l'accouchement, la femme peut, donc la mort peut survenir lorsque la femme perd une quantité importante du sang, par exemple par l'hémorragie. La mortalité infantile, c'est une mortalité qui atteint les petits enfants. Bon, même les enfants, même les petits bébés qui ne sont pas encore nés jusqu'à l'âge de 5 ans. Les causes de la mortalité maternelle et infantile, c'est d'abord l'inconscience au niveau de la société. Parce que la plupart des gens ne sont pas sensibilisés, ils ne savent pas comment appréhender ces phénomènes. Et beaucoup de femmes sont exposées, sont vulnérables par rapport à ces phénomènes. Par exemple, lors de l'accouchement, la femme n'est pas prise en soin. Donc, il y a des soins médicaux qu'elle en aura besoin pour son accouchement. Et la plupart des femmes ne sont pas prises en charge. La plupart des femmes qui sont victimes de ces phénomènes sont beaucoup plus dans les endroits reculés ou dans les zones rurales. Elles accouchent à la maison. La mortalité infantile peut être d'origine héréditaire. L'enfant peut hériter de ses parents un caractère qui lui est défavorable, qui peut lui coûter la vie. On peut prendre par exemple le cas de drépanocytose qui ravage pas mal des enfants. Comme cause encore, nous pouvons citer le mariage précoce qui peut occasionner les grossesses précoces. Et il y a aussi la non-sensibilisation ou même le refus catégorique de certaines femmes d'obéir à certains conseils qu'on leur donne dans les visites prénatales, soit disant que c'est un conseil qui n'est pas avantageux pour eux. Elles préfèrent souvent utiliser les méthodes traditionnelles qu'elles ont héritées, qu'elles jugent importantes et incontournables pour elles. Donc, la sensibilisation ne doit pas s'arrêter jusqu'à ce que les femmes soient conscientes de ce qui peut causer la mortalité maternelle et infantile.
La mortalité maternelle, c'est le décès d'une femme survenue au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours. Si une femme décède pendant qu'elle est enceinte, c'est la mortalité maternelle. Bon, la mortalité infantile, le décès d'un nouveau-né entre le 1er et 28 jours de la naissance. Si un enfant décède après 28 jours, ce n'est pas une mortalité infantile. Bon, ce qui cause le décès maternel infantile sont les complications de prématuré et des maladies infantiles. La poliomyélite, oui, le tétanos néonatal. Quand on est enceinte, il faut suivre la visite prénatale pour éviter le décès maternel. Il faut suivre la visite, c'est-à-dire aller faire la CPN à partir du 4e mois de la grossesse. Puis, il y a le traitement, il y a l'injection qui peut prévenir donc les femmes enceintes.
La mortalité maternelle, c'est quand la femme meurt tout avant, après ou pendant l'accouchement. Avant, c'est-à-dire lorsqu'elle est enceinte. Après l'accouchement, la période peut être peut-être 2 à 3 mois, voire même plus même. La mortalité infantile, c'est lorsque l'enfant meurt pendant l'accouchement ou bien avant l'accouchement. Ici, l'enfant meurt avant 8 ans, 9 ans. On peut considérer ça comme étant la mortalité infantile. Bon, les causes de la mortalité maternelle infantile peuvent être, entre autres, la grossesse précoce, l'accouchement à domicile et lorsque la maman aussi est exposée à certains virus aussi. Et même aussi les médicaments de la rue. C'est-à-dire le fait que la femme, étant enceinte, elle prenne les médicaments de la rue. L'absence de consultation prénatale. Puisque si elle ne suit pas ses visites prénatales, l'enfant peut être exposé à plusieurs risques. Par exemple, l'enfant peut être mal formé, la malformation. L'enfant peut avoir les maladies et comme pouvait voir ça et avant le temps, si elle faisait les visites. Les femmes qui ne peuvent pas accoucher à l'hôpital et l'hôpital ou bien le dispensaire est très loin, moins de déplacement, tout ça, là, elle n'a pas le choix. Ce sont aussi des causes de la mortalité infantile et maternelle à la fois. Pour limiter dans la mortalité maternelle et infantile, il faut que le gouvernement puisse d'abord sensibiliser la population et puisse aussi créer aussi les dispensaires dans différentes localités pour réduire la mortalité infantile et maternelle. Et il faut aussi sensibiliser encore les parents de certaines localités qui sont un peu éloignées de la ville pour les faire comprendre l'importance de la visite prénatale et postnatale. Voilà.
Bon, la mortalité maternelle, c'est le décès, je peux dire le décès maternel qui est lié à une femme peut-être qui a accouché et à moins de 45 jours, elle décède. Et la mortalité infantile aussi, c'est presque la même chose. Un enfant qui est né, bien portant, au bout de 45 jours, cet enfant-ci décède à une cause inconnue. Mais si une femme décède pendant qu'elle accouche, c'est aussi la mortalité maternelle. Parce que la mortalité maternelle, c'est défini toute femme qui veut donner naissance à une vie qui décède. Si une femme décède pendant qu'elle est enceinte, ça fait toujours entrer dans la mortalité maternelle. Parce que qui dit maternelle, qui dit une femme qui est enceinte qui veut donner naissance à un enfant. Et si un enfant décède après 45 jours, c'est toujours un décès infantile. Bon, on peut dire infantile, c'est jusqu'à 5 ans. Bon, la mortalité maternelle, c'est qui cause ici à l'extrême nord, beaucoup plus c'est la négligence d'aller vers les hôpitaux, d'aller faire la CPN, la consultation prénatale. Après, on dit si une femme enceinte a seulement le maux de tête, elle est déjà en danger. Déjà que le maux de tête seulement, la femme est en danger, ça veut dire qu'il y a certaines complications qui peuvent surgir au cours de la grossesse et que nous, on ignore si on ne part pas vers les centres de santé pour faire la consultation prénatale. Si déjà la femme fait la consultation, elle est déjà peut-être à 80% en risque parce qu'on va détecter son problème rapidement. Mais si elle ne part pas dans les centres de santé, la cause, on ne peut pas savoir parce que la femme n'est pas venue au centre de santé. Elle n'a pas fait les examens physiquement comme ça. On ne sait pas la cause de quoi elle est décédée. Raison pour laquelle on met l'accent sur la fréquentation du centre de santé. Bon, généralement, la mortalité infantile, c'est causé aussi par souvent le tétanos néonatal. Un enfant qui est bien né, il est en train de bien téter. 3 jours après, l'enfant commence à crier, à ne pas téter. Et puis l'enfant devient raide. Subitement, l'enfant décède. C'est dû à l'absence du vaccin antitétanique qui est dans le corps de la maman, ou bien au moment de l'accouchement, si elle n'est pas allée dans le centre de santé, on peut faire l'accouchement à domicile et elle a risque d'attraper la tétanose néonatale qui va plus tard transmettre à son enfant. L'accouchement à domicile est un très grand facteur de risque chez les femmes enceintes, les femmes qui accouchent. Raison pour laquelle maintenant on demande aux matrones, les accoucheuses traditionnelles, de ne pas faire les accouchements à la maison. Il faut absolument, dès qu'il y a une petite contraction, elle doit immédiatement amener la femme au centre de santé, la plus proche ou bien à l'hôpital pour faire l'accouchement, parce que là-bas il y a déjà une meilleure prise en charge et un plateau technique pour un accouchement sain et sauf. Bon, s'il n'y a pas une bonne route dans ce village, il doit forcément y avoir, parce que aujourd'hui dans nos régions pratiquement il y a les petits centres de santé, dans les dispensaires dans toute la région. Il y a forcément y avoir un personnel de santé qualifié pour faire l'accouchement approprié. Pour les erreurs du personnel médical, je ne pense pas. Je pense pas que s'il y a déjà un centre de santé, l'État affecte toujours un personnel de santé qualifié pour faire les soins appropriés.
Fidèle auditeur de Radio Serré, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire, qui marque un arrêt aujourd'hui sur la mortalité maternelle et infantile. Pour analyser ce sujet, nous sommes en compagnie du docteur Mena Augustin, chef du district de santé de Maroua 1er. Docteur, merci de nous honorer une fois de plus de votre présence dans cette émission pour édifier nos auditeurs.
C'est moi qui veux remercier. Je remercie la Radio Serré qui s'intéresse à la chose de santé. Donc c'est toujours avec un plaisir que je profite de votre onde pour sensibiliser les populations de district de santé de Maroua 1er.
Alors docteur, aujourd'hui nous parlons de la mortalité maternelle et infantile. Comment est-ce qu'on peut définir la mortalité maternelle d'un côté et d'autre côté la mortalité infantile?
Il y a une définition standard de toute façon, mais je vais essayer d'être très simple. Le décès maternel, c'est le décès chez une femme enceinte. Et ce décès est lié à la grossesse. Ce décès se passe entre le temps où la femme tombe enceinte jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Pour toutes les causes liées à la grossesse, les causes aggravées par la grossesse, les causes que le traitement est compliqué par la grossesse, mais pas par des causes accidentelles ou incidentelles, c'est-à-dire des causes qui ne sont pas liées à la grossesse, comme l'accident et autre chose. Donc, on doit avoir un lien entre l'état de la grossesse et le décès. C'est ça la définition de décès maternel.
Et la mortalité infantile, comment la définir?
Effectivement, je voulais juste revenir sur ce terme qui pète beaucoup de confusion, parce qu'on a le décès néonatal qui est très important, qui est un indicateur phare dans l'évolution de l'état de santé de la population. Il s'agit du décès d'un enfant de la naissance, c'est-à-dire l'enfant est né vivant jusqu'à 28 jours. Ça, c'est le décès néonatal. Maintenant, infantile, c'est décès d'un enfant durant la première année, avant son premier anniversaire. Et puis, décès infanto-juvénile, c'est avant son cinquième anniversaire.
Docteur, parlant justement de toutes ces mortalités, c'est-à-dire la mortalité maternelle, mortalité néo-infantile, mortalité infantile, mortalité juvénile, est-ce qu'on peut avoir les chiffres au Cameroun en général et dans la région de l'extrême nord en particulier?
Oui, il y a des chiffres. Il faut aussi savoir que ces données, c'est des statistiques récoltées auprès de la population par le biais des enquêtes auprès des ménages, des enquêtes démographiques. Donc, quand on regarde la situation de décès maternel au Cameroun, je pense qu'il y a 10 ans, on était à 782 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire que sur 100 000 femmes qui accouchent, il y a 782 qui ne vont pas rentrer ou bien qui vont partir entre le temps de la conception de la grossesse jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Mais on a évolué, je pense que d'après l'enquête de 2018, on est déjà à 467 décès pour 100 000 naissances suivantes. Très loin de notre objectif durable de développement qui est 140. Donc on est encore très loin. Jusqu'à 2030, il faut qu'on retrouve 140. Donc on a encore le chemin à faire. Et j'étais en train de regarder si on veut atteindre cette cible, il faut qu'on baisse par 10% chaque année. Et actuellement, on est à 5% à peu près de réduction par année. Donc il faut vraiment redoubler l'effort pour arriver à cet niveau. Bon, en ce qui concerne le décès néonatal, je voulais juste dire, quand je donne le chiffre national, il faut du coup savoir qu'à l'extrême nord, la situation est plus grave. Il y a des chiffres qui montrent que c'est toujours plus alarmant. Je veux donner quelques éléments qui confortent cette situation. Alors, d'après l'enquête de 2018, on est à 28 décès néonatal pour 1000 naissances vivantes au Cameroun. Ça a dit que les enfants, pour 1000 naissances vivantes, il y a 28 enfants qui ne vont pas faire un mois pour partir.
Là, c'est au Cameroun ou bien c'est à l'extrême nord?
Au Cameroun. Pour décès infantiles, on est à 77. Ça veut dire que pour 1000 naissances, il y a à peu près 80 enfants qui ne vont pas, 48 enfants, pardon, qui ne vont pas trouver leur premier anniversaire. Ensuite, pour 5 ans, on est déjà à 80. Ça, c'est l'enquête de 2018, l'enquête auprès de ménages, démographie auprès de ménages. Voilà, si vous regardez l'extrême nord, les chiffres sont difficiles. Je veux vous donner une idée, parce que je ne veux pas entrer dans le détail des chiffres. L'extrême nord a le tiers des enfants, à peu près le tiers des enfants de 0 à 5 ans au Cameroun. Le tiers. Mais quand on regarde le nombre de décès, l'extrême nord porte à peu près 60% de décès total au Cameroun. Donc ça vous donne une idée de poids de ces dans notre situation. Voilà donc les chiffres que je pouvais donner pour mieux fixer l'idée de mortalité dans cette tranche d'âge.
Justement, docteur, les chiffres que vous venez de nous communiquer en ce qui concerne spécifiquement la région de l'extrême nord montrent que le problème est suffisamment alarmant ou inquiétant. Alors, s'agissant justement de cette région, notre région dans laquelle nous nous trouvons, quelles sont les principales justifications ou causes tant de la mortalité maternelle que de la mortalité infantile?
Ok, je pense qu'on va revenir sur les causes générales. Pourquoi une femme va perdre sa vie en donnant la vie? Il y a des causes bien connues. Mais je voulais dire que ces causes sont souvent des causes immédiates, des causes directes. Les causes lointaines sont là, qu'on connaît. Ah, vous avez par exemple le niveau de scolarité, le niveau de pauvreté et l'âge de première grossesse, de premier mariage, de première grossesse. Tous ces facteurs entrent en jeu, c'est des facteurs lointains. La disponibilité de personnel médical et tout, ça c'est des facteurs qui sont lointains, qui expliquent pourquoi à l'extrême nord, les choses deviennent plus en plus gaffes. Mais en général, une femme va perdre la grossesse au Cameroun, à cause de certaines choses, le saignement, l'infection, les maladies hypertensives de la grossesse, c'est-à-dire qu'une femme est enceinte et puis les chiffres tensionnels commencent à grimper, et puis le travail obstructif, c'est-à-dire que le travail dystocique, le travail qui n'évolue pas. Voilà donc ça, les causes directes, mais vous allez voir d'autres causes comme l'anémie, la malnutrition, le VIH, il faut aussi comprendre que on voit le décès maternel ou infanto-juvénile. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des facteurs, beaucoup de facteurs, qui ont des relations complexes pour produire ces résultats. C'est pour ça que l'approche au Cameroun, c'est vraiment multisectorielle. Parce que ce n'est pas un problème médical seulement.
Alors, tout à l'heure, on va justement revenir sur cette approche multisectorielle, justement. Ces efforts ou alors ces mécanismes mis en place pour réduire cette mortalité dans notre région, dans notre pays. Alors, restons sur le cas spécifique de la mortalité maternelle, docteur. On pointe du doigt souvent les hémorragies postpartum. Comment devrait normalement se passer la prise en charge, le suivi et le contrôle d'une femme qui vient d'accoucher? Quand on sait que dans certains cas, particulièrement dans notre région, une femme qui vient de donner naissance, généralement au bout de quelques heures, elle-même décide de sortir, de rentrer à la maison.
Voilà, votre question est assez complexe. Il faut aussi souligner que l'hémorragie peut se passer avant la grossesse, pendant la grossesse et après. Et ceci est très important parce qu'au Cameroun, à peu près la moitié des décès sont liés à ce problème de saignement. Donc c'est très important. La première chose, c'est qu'il faut chercher les causes de saignement. Il y a des personnels médicaux qui savent les causes de saignement. Dans le cadre d'accouchement, ou bien avant l'accouchement ou après l'accouchement. Et chaque cause a sa prise en charge très spécifique. Mais je voulais juste souligner un élément qui est très important, qui est la transfusion. Dans beaucoup de cas, il faut la transfusion. Puisque vous voyez, ces femmes vont venir avec des problèmes d'anémie, déjà. Et puis, il y a saignement. Et puis, ça aggrave la situation. Il faut transfuser. Et souvent, on a des gros soucis pour accepter la transfusion, pour avoir le sang disponible de bonne qualité. Donc, vous voyez qu'on va perdre certaines femmes à cause de ces saignements. Et je voulais juste insister aussi qu'il faut savoir que le trois quarts des accouchements se passent pas dans les formations sanitaires, les SEM, non. Donc, le problème s'aggrave quand on reçoit ces femmes qui sont déjà pratiquement au bout de leur peine et il n'y a pas le temps même pour transfuser. Je pense que s'il y a quelque chose qui doit insister sur ça, c'est que les accouchements doivent se passer dans les formations sanitaires pour régler ce problème de saignement. Et aussi, une fois une femme accouche, il y a une série de suivis. Il y a des consultations post-natales très réglées. Il y a des évaluations bien chronométrées. Toutes ces évaluations, c'est pour s'assurer qu'elle peut rentrer à la maison sans problème, sans saignement. Donc, il faut accoucher dans la formation sanitaire. Il faut aussi accepter de rester durant le temps nécessaire pour que le personnel médical se rassure qu'on ne peut pas avoir un saignement après l'accouchement.
Alors, docteur, certaines personnes pointent souvent du doigt le recours aux césariennes injustifiées qui causent souvent également la mort de la mère. Dans quel cas, en principe, est-ce qu'on doit faire recours à la césarienne? Et quelles sont les précautions à prendre pour que la césarienne réussisse sans exposer ou augmenter les risques justement de perte de la mère?
Ok, je vais commencer par dire quelque chose. La césarienne, la chirurgie, dans le cadre obstétrical, c'est quelque chose, c'est une décision prise avec une indication médicale claire. Donc ce n'est pas une sorte de... Ça dit qu'une action qu'on prend sans fondement médical. Il y a un fondement médical. Pourquoi? Parce que à peu près 80% de femmes enceintes vont accoucher sans problème, avec ou sans personnel médical. À peu près, ça va se passer sans problème. Dans 20% de cas, il y aura un problème. 15 à 20%, il y aura un problème. Il faut quelque chose, il faut faire quelque chose. Quelque chose que la femme l'accouche. Maintenant, dans à peu près 6%, 5-6%, il faut faire la césarienne. Puisque c'est la césarienne où on va perdre quelqu'un, soit la femme, soit l'enfant, ou les deux. Donc la césarienne est vraiment une indication médicale qui est prise avec beaucoup d'attention en sachant que si on ne prend pas cet acte, on va perdre. Il y a une indication chirurgicale fondée. C'est ça que je voulais insister parce que le commun des mortels estime que c'est une sorte de décision que le personnel médical prenne comme ça. Non, c'est une décision difficile parce que c'est une chirurgie avec le risque. La chirurgie, c'est une chirurgie générale avec des risques qu'on peut imaginer. Donc si on retient dans ce taux de 6%, ça veut dire que 6% de grossesses vont nécessiter une césarienne. Alors, dites-vous comment on va faire. Alors, au niveau national, on est à 3,5% de césarienne. Ça veut dire que le nombre de femmes qui devraient accoucher, 3,5% chiffre national, accouche par césarienne. À l'ESTEM, non, on est au niveau de 0,6. Vous voyez? Donc maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Ils partent où? Donc la césarienne, c'est un pilier de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun et dans le monde. Donc ce n'est pas, c'est une action qui vient pour sauver la vie de la maman et du bébé. On souhaite que ça soit répandu. Malheureusement, on est encore très loin de ces césariennes. Et parfois, il y a une version de césarienne qui est pratiquée à l'extrême nord. Il dit version, c'est-à-dire les césariennes où on a tellement traîné, la famille a tellement traîné, qu'on va faire une césarienne pour extraire un enfant, un fœtus mort. Ou bien une césarienne qu'on va faire et perdre la dame, ou bien on va aller parce qu'il y a eu rupture de l'utérus, parce que vous savez que s'il n'y a pas assez de passage, l'utérus peut finir par se rompre. Donc on va donc aller faire ce genre de travail alors qu'on a tout le temps de faire le césarien à temps et sauver la maman et l'enfant. Donc en conclusion, la césarienne est là pour résoudre les cas d'accouchement qui ont l'indication chirurgicale bien claire. Et ça peut être lié à la maman, à l'enfant, ou bien au déroulement de la grossesse, de l'accouchement. Donc, à tout moment, on peut poser le diagnostic de césarienne. Quelqu'un qui est accouché normalement, lors d'un accouchement, peut supplément avoir une indication chirurgicale pour faire la césarienne. Je donne un exemple. Par exemple, si vous avez le cordon enroulé autour du cou et l'enfant a des signes de détresse fœtale, il faut absolument faire la césarienne pour sauver cet enfant. Pourtant, elle a accouché tranquillement plusieurs fois. Ouais.
Alors, vous venez là de soulever l'une des raisons, justement. Vous avez parlé de condom ombilical enroulé autour du cou. Est-ce qu'il y a d'autres complications qui pourraient justement justifier le recours à la césarienne, docteur?
Bon, je ne veux pas entrer dans les indications médicales de la chirurgie, mais je vous ai donné juste un résumé. L'accouchement est monitoré. On suit les étapes. On regarde la performance, l'efficacité de contraction, l'évolution de la grossesse, l'état de l'enfant et l'état de la maman aussi. Et si la maman commence à convulser, vous voyez, donc il faut accoucher à tout prix s'il y a l'éclampsie. Donc tous ces éléments sont monitorés. À tout moment qu'on trouve qu'il y a un paramètre qui n'est pas bon, il faut procéder à la césarienne à temps. Que de faire comme je vous ai expliqué, traîner finalement faire une césarienne de façon triste où on n'a pas la femme vivante et peut-être la mère va suivre après.
Il est indéniable justement que dans notre région, il y a un problème de consultation prénatale. Quel est l'impact justement de l'absence ou du mauvais suivi de ces CPN sur la mortalité maternelle et j'aurais dit également infantile?
Merci pour ce point de vue. Et à l'extrême, non, c'est un peu intriguant. Parce que si vous voyez que vous regardez, vous allez voir que les consultations prénatales se passent peut-être autour de 60%. Les femmes vont venir au moins une fois. Parce que pour le moment, il faut 4 fois. On envisage même 8 contacts. Mais pour le moment, on est à 4. Pour une fois, on est à 60% à peu près. Et l'accouchement, c'est autour de 30%. Ouais, le tiers. Donc demandez-vous ce qui se passe. Qu'il y a certaines femmes qui viennent pour la CPN, mais ils accouchent à la maison. Sinon, la CPN, c'est vraiment cette occasion d'évaluer la maman, évaluer l'évolution de la grossesse, corriger certaines erreurs, faire la supplémentation, faire la vaccination et préparer l'accouchement. Donc c'est vraiment des visites qui sont très importantes pour éviter certaines complications qui peuvent venir. Si vous avez il y a beaucoup de anomalies qu'on peut déjà voir avec la CPN, qu'on peut prévoir même quel type d'accouchement faire, où faire l'accouchement. Et tous ces préparatifs se passent au niveau de la CPN. S'il y a l'anémie, par exemple, on va corriger, on va prévenir le paludisme, on va faire la vaccination, on va faire la prévention de la transmission mais enfant de VIH et autres choses qu'on fait durant la CPN. Donc c'est très important. On a des difficultés à l'ESM, donc les gens viennent très tard. Parce qu'il faut vraiment, pour bénéficier de ce package et que permettre que ça marche, il faut venir à temps, 16 semaines plus tard. Et puis maintenant, les peu de gens qui viennent, finalement, ils finissent, ils accouchent à la maison et puis ils reviennent peut-être pour le pansement ombilical de nouveau ou autre chose. Moi, je pense que c'est quand même intriguant et c'est vraiment des choses qu'on aimerait que ça change. Que les gens viennent pour la CPN, puisqu'il y a beaucoup d'efforts. On va tout à l'heure parler de certains axes stratégiques que l'État a mis en place pour faciliter cette activité de la CPN recentrée, pour rendre plus efficace, pour rendre plus accessible. Mais c'est quand même difficile que les gens, les femmes et les couples n'assistent pas à cette séance de préparation de l'accouchement en toute sécurité.
En termes de données chiffrées, tout à l'heure vous avez avancé quelques chiffres par rapport justement au pourcentage de décès des femmes qui donnent la vie. Est-ce qu'on peut avoir de manière estimée le pourcentage de décès maternels ou infantiles qui serait imputable justement à cette absence de suivi prénatal?
Non, c'est difficile parce que comme je vous ai dit, il faut faire attention parce que on ne peut que associer, on peut évaluer une cause directe. Ça veut dire que saignement et la maladie hypertensive de la grossesse, infection, dystosie, et puis maintenant des autres comme l'anémie, le paludisme, le VIH, on peut évaluer directement, c'est des causes directes. Mais la CPN, comme vous savez, c'est beaucoup de choses. Il faut des examens, il faut des médicaments à prendre, il faut la vaccination et tout. Donc on ne peut pas, vous pouvez suivre la CPN et vous accoucher à la maison. Ouais, donc quelle est la valeur de cette CPN que vous avez suivie? Bon, est-ce que c'est encore efficace? On ne sait pas. Vous pouvez ne pas suivre la CPN et venir accoucher dans la formation sanitaire. Vous voyez? Vous pouvez faire la CPN, mais vous avez quand même la complication de problèmes de tension de la grossesse. Donc, comme les facteurs sont très interliés, c'est très difficile de gérer les causes lointaines, surtout la CPN. Mais on estime que la CPN... On voit clairement qu'il y a plus de décès chez les femmes qui n'ont pas suivi la CPN, clairement. Mais on ne peut pas tellement faire l'imputation. Puisque, effectivement, il y a des complications de l'accouchement qui survient au moment de l'accouchement. C'était même après l'accouchement. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment être très prudent, mener toutes les activités, toutes les stratégies autour de l'accouchement pour s'assurer qu'il n'y a pas de décès maternel et néonatal.
Alors, tout ce que vous dites laisse sous-entendre qu'il y a une réelle nécessité de sensibiliser nos populations, de sensibiliser non seulement les hommes, mais aussi les femmes, sur la nécessité justement de prendre à cœur ce problème qu'est la mortalité maternelle et infantile. Alors, en termes de sensibilisation, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous avez des initiatives que vous entreprenez justement pour sensibiliser les hommes, les femmes, sur les facteurs de risque et les causes de cette mortalité maternelle et infantile?
Ok, merci pour la question. La sensibilisation est faite de façon continue dans le système de santé. La première chose, c'est chaque fois qu'il y a des femmes, des parturientes, des femmes enceintes qui viennent dans les formations santé, il y a aussi une sensibilisation. C'est connu. Moi, je sors d'une supervision tout à l'heure, j'ai vérifié certains. Il y a aussi des activités communautaires dans le cadre de spécifiques, que ce soit Check Santé, soit PBF, et d'autres choses. Qu'on va sensibiliser spécifiquement les femmes enceintes d'adhérer à la CPN recentrée dans les formations santé. Il y a une sensibilisation, mais ça ne suffit pas, comme vous voyez. Il y a les hommes qui ne sont pas bien sensibilisés. Parce que on est dans. Vous avez demandé même au début pourquoi il y a le poids à l'ESM. Non, il y a aussi le poids de décision des femmes, de la femme. Elle ne peut pas décider. On doit aussi sensibiliser la femme, on doit sensibiliser la communauté aussi, et les hommes aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire sur la sensibilisation. Mais comme j'ai expliqué avant, est-ce que c'est seulement le système de santé? Il faut des organisations de femmes, de groupements de femmes, de groupements des hommes, et tous les autres, les médias, les hommes de médias que vous êtes pour nous appuyer à sensibiliser. Vous voyez, entre prendre en charge les malades, les clients, les femmes enceintes et tout, et puis aller sensibiliser, souvent on est dépassé. Donc on vous sollicite vraiment à nous appuyer dans ce travail de sensibilisation et puis que les hommes se sentent impliqués dedans. Parce que vraiment, c'est un problème, ils ont un poids important de décision quand il s'agit d'une femme dans notre région.
Assurez-vous, docteur, vous pourrez toujours compter sur notre contribution dans ces soucis de sensibilisation de nos populations sur toutes les questions liées justement à leur santé. Alors, docteur, comment réduire la mortalité maternelle et infantile dans notre région? Parce que tel que vous dressez le tableau, on peut avoir ou alors on a l'impression qu'il y a un travail de fond à faire. Comment réussir à redresser la barre?
je vais essayer d'expliquer, puisque il faut savoir que c'est une préoccupation mondiale. C'est connu. Il y a beaucoup de documents statistiques qui vraiment prennent dans la directive sur cette approche. Et le Cameroun aussi est fortement impliqué. Dans le document de stratégie sectorielle de santé, si vous regardez, vous allez voir cet aspect de lutte contre de santé de maternelle, néonatale, infantile, adolescent. Il y a beaucoup de points qu'on a mis en place, c'est-à-dire le SSS de 2016-2027. Il y a une bonne partie qui est consacrée à cette lutte. Et pour être plus efficace, il y a le programme multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale, infantile. Ce programme existe, c'est multisectoriel, c'est-à-dire qu'il mène les activités dans le domaine de santé et hors du domaine de santé. Donc vraiment, il faut aussi tenir compte du fait que ce n'est pas seulement le personnel médical qui vont prendre qui sont ça. Il y a aussi le programme national de transfusion sanguine, parce que c'est un gros souci. La femme ancienne a besoin de sang, mais il y a d'autres personnes, les accidentés, les opérés, qui ont besoin de sang, mais le sang est très difficile. Donc l'État a déjà en train de mettre en place le programme national de transfusion sanguine. Mais je voulais juste dire que si on va regarder dans les activités qui sont menées, je veux d'abord parler des activités institutionnelles, c'est-à-dire que ce qui concerne la santé. Hein. Alors, la première chose, c'est la consultation prénatale et les accouchements assistés. Ça, il faut commencer par là. Il faut venir visiter votre formation sanitaire quand vous êtes enceinte. Il faut accoucher dans la formation sanitaire. Et l'État allait loin. Ils ont créé la stratégie de kit obstétrical. Ils ont continué, approfondi avec l'approche de chèque santé qui va être reliée avec d'autres activités dans la couverture santé universelle. Donc c'est très important. Alors maintenant, il y a les soins obstétricaux néonataux d'urgence. C'est très important pour le nouveau-né. Il faut réanimer le nouveau-né. Il faut s'assurer qu'il est en santé. Il faut l'examiner. Il y a la prise en charge de maladies de l'enfant. Il y a la prise en charge de la malnutrition. Il y a la prévention de transmission de mère à enfant de VIH. Il y a aussi le planning familial qui est très important. Parce que quand vous regardez les décès, là, vous allez voir que beaucoup de décès viennent aux complications d'avortement. Et l'avortement peut-être lié à une grossesse non désirée. Donc, on a des moyens pour éviter une grossesse non désirée dans notre système. Je voulais aussi dire que grâce à ce programme, on a eu 10 écoles de sages-femmes créées. On a eu beaucoup de renforcement de capacités de personnel. Hein. Ça entre dans cet aspect des institutions. Mais si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir le génie civil. Construction de latrines de forage, installation de plaques solaires dans les formations sanitaires, acquisition de consommables médicaux, réfection de maternité, équipement de maternité. Voilà. Voilà donc en ramasser toutes ces actions qui ne sont pas complètes, parce que si on prend le temps, on va voir que c'est vraiment c'est long. Tout ce qu'on fait, toutes ces batailles qu'on fait dans différents secteurs, vous avez le moustiquaire imprégné, que les femmes enceintes doivent dormir sur ça. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Vous avez la CPS qui cherche à protéger les grands tueurs des enfants de moins de 5 ans, qui est le paludisme. Donc rapidement, il faut donner les médicaments de prévention des enfants de à partir de 3 mois à 59 mois. Il y a la vaccination des enfants. Il y a la lutte contre la malnutrition qui dit. Donc vraiment, c'est toute une mosaïque de choses qu'on est en train de faire pour diminuer cette mortalité maternelle, néonatale et infantile. Voilà donc ces axes qui sont déclinés dans les stratégies sectorielles de santé 2016-2027 au Cameroun.
Tout à l'heure, vous avez mentionné le génie civil, notamment en ce qui concerne la construction des routes. Quel est le lien que vous faites entre la construction des routes, justement, et la réduction de la mortalité maternelle et infantile, docteur?
Bon, le génie civil, dans le cadre du programme de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, c'est pour les constructions des ouvrages médicaux. Parce que les centres de santé doivent être construits, il doit avoir une latrine, il doit avoir l'eau, il doit avoir la lumière. Puis si une femme vient pour accoucher dans la nuit, on va faire comment? Donc, finalement, voilà ça. Bon, vous avez évoqué l'importance de la route. Il faut savoir que le temps que la femme prenne quand elle veut accoucher pour aller dans une formation sanitaire est très important. Les routes sont très importantes. Donc, c'est un facteur très... Si vous regardez l'approche de moto-ambulance et les ambulances médicalisées qui est déjà mise en place dans la région de l'Estem, dans 5 districts. Cette approche visait à régler ce problème de délai dû au transport. Parce qu'il faut chercher quoi? La moto. Est-ce qu'une femme qui est en travail va s'asseoir sur la moto? Est-ce qu'une femme qui a besoin de césarienne va... On va attendre le cas de voyage. Donc, tous ces éléments de logistique de la route est très important. Mais je voulais vraiment, sur le génie civil, parler de construction, des ouvrages médicaux, les formations sanitaires, les réflexions, les constructions de maternité et aussi les forages. Parce qu'il y a beaucoup de formations sanitaires qui n'avaient pas de forage. Il y a les formations sanitaires qui n'ont pas la lumière. Et c'est très difficile de faire un accouchement sans lumière. Il y a des formations sanitaires qui sont mal équipées, vous avez vu. Il faut donc équiper ces structures. Voilà dans le sens que je voulais dire.
Alors, docteur, tout à l'heure, vous mentionnez justement l'importance du chèque santé. Quel est l'impact de cette solution, qu'est le chèque santé, sur l'amélioration de l'accès aux soins obstétricaux d'une manière générale et dans votre district de santé en particulier?
Merci pour cette question parce que c'est une stratégie qui est déjà vulgarisée dans les SEMNOR qui montre déjà les preuves. Le premier chiffre montre clairement les décès. Je pense qu'il y a des analyses qu'on voit clairement que le chèque santé protège les femmes contre les décès, contre les complications, autre chose. Alors, je voulais juste dire que le district de santé a 18 formations sanitaires. Et dans ces 18 formations sanitaires, on a 11 qui sont enrôlées dans le chèque santé. Parce que le chèque santé aussi, c'est critère. Il faut la structure, il faut le personnel, il faut beaucoup d'éléments. Ce n'est pas... Il faut le niveau d'hygiène, il faut engager à beaucoup de choses. Donc, vraiment, on veut ouvrir le meilleur en matière de santé maternelle. Alors, le chèque santé, c'est quoi? On se rend compte que le fait qu'une femme va venir payer quelque chose, souvent, ça c'est comme si c'est un obstacle. Ça devient un obstacle, un véritable obstacle. Donc, on va dire, bon, la femme va payer quelque chose qui est simple. Il va acheter le chèque, son chèque, et puis il va bénéficier de toutes les CPN gratuits, de tous les examens gratuits. Il y a toute une liste d'examens. L'accouchement va être c'est gratuit. Il va... S'il y a la césarienne, c'est dans le même package. Et puis maintenant, l'enfant et la maman est suivi jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Moi, je pense que ça, c'est... En premier lieu, c'était pour enlever cet obstacle financier qui s'est dressé sur le chemin de femmes qui venaient. Alors, comme je vous explique, si vous regardez les accouchements, les CPN... Les césariennes dans le district, vous allez voir que la plupart se passent maintenant avec le chèque. Donc, les femmes bénéficient du maximum des examens que vous pouvez imaginer. Donc, si vous regardez cette année, durant les 6 premiers mois, on a vendu plus de 2500 chèques, à peu près 2500 chèques, jusqu'en mai, premier trimestre. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y a quelques femmes seulement qui font la CPN sans chèque. Peut-être viennent de zones où il n'y a pas de chèque. Et sur la césarienne, je peux donner un exemple, on a déjà 59 césariennes, seulement 5 étaient faites sans chèque. 54 étaient faites avec chèque santé. Donc, pour les accouchements, sur 1700 accouchements, on voit que c'est seulement 71 qu'on a fait sans chèque. Donc, vous voyez que le chèque santé est adopté et la population adhère parce que vraiment, il n'y a pas moins, il y a meilleur. Cette package est très riche pour lever cet obstacle financier qui se dressait sur le chemin de ces femmes. C'est quelque chose à encourager.
Docteur, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez justement un mot de fin à l'endroit de nos auditeurs, femmes comme hommes, pour les sensibiliser davantage sur la nécessité justement de respecter tout ce que vous avez prodigué comme conseil pour contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile?
Merci pour cette opportunité. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais résumer seulement qu'une femme doit retarder la grossesse. Ça veut dire qu'il faut éviter la grossesse précoce. Maintenant, une femme qui est enceinte, il faut absolument venir dans la formation sanitaire pour bénéficier de la CPN de santé. Et je vais les fortement conseiller avec chèque santé. Aussi, cette femme doit accoucher dans les formations sanitaires et se faire suivre après l'accouchement la femme et l'enfant dans la formation sanitaire. Ça, c'est un simple, ça dit que si une femme est disponible pour cette période, pour ce rendez-vous que je venais de dire, automatiquement, elle va bénéficier de toutes ces activités qui sont menées, que l'État mène pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Il faut aussi imaginer que on est maintenant à 467 pour 100 000 naissances vivantes. On doit atteindre 140. Il y a le chemin à faire. Comme on aime beaucoup comparer, il y a des pays où c'est un ou deux décès pour 100 000 vivants au monde. Donc on a beaucoup de chemin à faire. Même après 2030, on va continuer à diminuer. C'est inacceptable qu'on perd la vie en donnant la vie. C'est inacceptable qu'un enfant, comme mes amants, va partir avant un mois, avant premier anniversaire, avant cinquième anniversaire. C'est vraiment inacceptable. Or, on maîtrise la plupart des causes. Il y a des solutions pour régler toutes ces causes. Donc, c'est vraiment, je parle de causes institutionnelles, quoi. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des causes lointaines. La fréquentation de laisser la jeune fille aller à l'école, l'alimentation de la jeune fille, donner les moyens aux femmes et tout. Tous ces éléments contribuent à diminuer les décès maternels et néonatal et infantile.
Docteur Menan Augustin, chef de district de santé de Maroua 1er, merci encore d'avoir accepté notre sollicitation.
C'est moi qui vous remercie et je souhaite que cette partenariat dure. Comme ça, la population va bénéficier de ces sensibilisations, puisque le personnel médical soit incertain, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de contributions. Le poids du succès est partagé entre le personnel médical et la population et l'individu. Donc on a besoin de leur adhérence, on a besoin de leur contribution pour qu'on réussisse à être en bonne santé.
Amis auditeurs, c'était pour vous le docteur Menan Augustin qui nous a fourni des explications suffisamment claires pour nous permettre de comprendre ce que nous devons faire pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans notre région. Avant de nous séparer, je vous propose d'écouter un petit résumé en langue foufouldé du contenu de cet échange avec notre invité. C'est une traduction de Badriatou Bello Bouba.
Worbe rewbe heditittobe radio hosere on don kedito siriya wa modon biete nga jamumun dum emission nasiana go enden bo waza go don jamumun ha radio hosere siriya on bolwante nga hande do larana benbe besgu barata en barata be bikkon mun fu e gamman en don jabbo docteur Menan Augustin chef du district de santé de Maroua 1er da komando to den do ko famnien rewbe redwen be bikkon jurkon lebbi seeda don maya sey dum larana en fu ngam en don mari dabareji duddi nafoji je ustugo sadirmaji di benbe besngu barata en barata bikkon fu e ngam man sey kadi to den daili di dubi pamari to goddo redu bo sey yaha bariki lara docteur e ne ano ko be biyata dum ha bariki man Habana daigo ha bariki heba koto wodi ko sakli bo ta dum wada fitina. E to wodi sadir maji goddo hauri sai daigo bo jaba wallinde docteur en gaddanta dum e ta goddo salo hokkego iam gam dum don wade heba ta goddo yida be sadir masam. Bawo daigo bo se ngillo den bariki heba daitina na en hore men e bikkon danya kon sadir ma wanga. Danyen de day planning familial wadanyen heba dum hisna en daily chatdi. Rewbe redwen be bikkon sey dano der sange heba dum hisna be papboje. Gam papboje baran. Bikkon le bitati ayaru go dubi joyfu sey kocha lekki ko faddan to be papboje garoje der wakatiji bana dabbunde koma dumon. Saro en rewbe redwen nasiano den dindi lumtuden. Ngam ta daili rewbe fofana be maigo. Heri titowe tilimbe, to wodi ko ngaddan ton min koma wodi ko giddon yamgo. On poti on gerba mesaj, koma boli demon hawazap, galabi karalagal, jego, jenai, jui, gotel nai, jego tati, jego didi, jego, jenai, jui, gotel nai, jego tati, jego didi. E tangi jiten faddago buran nyawdago.
Amis auditeurs, nous nous approchons de la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui a fait un focus aujourd'hui sur la mortalité maternelle et infantile. Grâce à l'expertise du docteur Menant Augustin, chef du district de santé de Maroua 1er, que nous remercions une fois de plus de s'être prêté à cette émission de sensibilisation. Comme enseignement à retenir, les chiffres sur la mortalité maternelle et infantile permettent de faire un double constat. Beaucoup de femmes perdent leur vie à cause de la grossesse et beaucoup d'enfants meurent au cours des premiers mois de leur vie. Nous devons tous nous sentir concernés par la situation car il existe des pistes de solutions pour réduire significativement la mortalité maternelle et infantile. Pour cela, nous devons éviter les grossesses précoces, se rendre aux consultations prénatales et respecter les prescriptions médicales reçues à chaque grossesse, tout faire pour accoucher systématiquement dans une formation sanitaire et bénéficier de toute l'assistance dont vous pourrez avoir besoin en cas de difficulté. En cas de complications durant l'accouchement, vous devez accepter l'aide médicale qui vous est proposée, y compris la transfusion sanguine. Des précautions médicales sont prises pour que cette transfusion ne constitue aucun danger pour vous. Il faut aussi respecter les visites postnatales pour écarter tout danger tant pour la mère que pour le bébé. Les femmes enceintes et les enfants doivent dormir systématiquement sous une moustiquaire imprégnée pour éviter le paludisme car il est mortel. Pour les enfants de 3 mois à 5 ans, il faut prendre les médicaments de la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Chers parents, chères femmes enceintes, tâchons de respecter ces consignes car aucune femme ne doit perdre sa vie en donnant la vie. Fidèle auditeur, si vous souhaitez apporter une contribution ou poser une question sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire par WhatsApp en envoyant soit un message, soit un voice au 695 14 63 62, 695 14 63 62. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Marc Chinois à la technique, Badria Toubelebouba à la traduction, David Bayan à la coordination et moi, Steph Fibio, micro de présentation. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.